Condorcet, vie de Monsieur Turgot, fichier numéro 9. Mais est-il possible que jamais les hommes se conforment, en général, à des vues dictées par la saine raison? Non seulement Monsieur Turgot l'espérait, mais il regardait une perfectibilité indéfinie comme une des qualités distinctives de l'espèce humaine. Les effets de cette perfectibilité toujours croissante lui paraissaient infaillibles. L'invention de l'imprimerie en a sans doute avancé les progrès, et même a rendu impossible toute marche rétrograde. Mais cette invention était elle-même une suite de l'usage de la lecture répandue dans un grand nombre de pays. L'imprimerie, telle qu'elle est en usage, n'est pas le seul moyen de multiplier les copies. Et si celui-ci avait échappé, il s'en serait nécessairement présenté d'autres. Cette perfectibilité lui paraissait appartenir et au genre humain en général et à chaque individu en particulier. Il croyait, par exemple, que les progrès des connaissances physiques, ceux de l'éducation, ceux de la méthode dans les sciences ou la découverte de méthodes nouvelles contribueraient à perfectionner l'organisation, à rendre les hommes capables de réunir plus d'idées dans leur mémoire et d'en multiplier les combinaisons. Il croyait que leur sens moral était également capable de se perfectionner. Selon ces principes, toutes les vérités utiles devait finir un jour par être généralement connu et adopté par tous les hommes. Toutes les anciennes erreurs devaient s'anéantir peu à peu et être remplacées par des vérités nouvelles. Ce progrès, croissant toujours de siècle en siècle, n'a point de terme, ou n'en a qu'un, absolument inatteignable dans l'état actuel de nos lumières. Il était convaincu que la perfection de l'ordre de la société en amènerait nécessairement une non moins grande dans la morale, que les hommes deviendraient continuellement meilleurs à mesure qu'ils seraient plus éclairés. Il voulait donc qu'au lieu de chercher à lier les vertus humaines à des préjugés, à les appuyer sur l'enthousiasme ou sur des principes exagérés, on se bornât à convaincre les hommes par raison comme par sentiment, que leur intérêt doit les porter à la pratique des vertus douces et paisibles, que leur bonheur est lié avec celui des autres hommes. Le fanatisme de la liberté, celui du patriotisme, ne lui paraissait pas des vertus, mais si ses sentiments étaient sincères, des erreurs respectables d'âmes fortes et élevées qu'il faudrait éclairer et non exalter. Il craignait toujours que, soumise à un examen sévère et philosophique, ses vertus ne se trouvassent tenir à l'orgueil, au désir de l'emporter sur les autres, que l'amour de la liberté ne fût celui de la supériorité sur ses concitoyens, l'amour de la patrie, le désir de profiter de sa grandeur. Et il le prouvait en observant combien il importait peu au plus grand nombre, ou d'avoir de l'influence sur les affaires publiques, ou d'appartenir à une nation dominatrice. Il ne doutait pas que chaque siècle, par les progrès de l'agriculture, ceux des arts, ceux de toutes les sciences, n'augmentât pour toute classe d'hommes leurs moyens de jouissance, ne diminuât leurs maux physiques, ne leur apprit à prévenir ou à détourner quelques-uns des fléaux qui les menacent. Les nations tendent à se rapprocher. Bientôt, tout ce que le sol produit, tout ce que l'industrie a créé dans les différents pays, deviendra un bien commun à l'espèce humaine. Tous les peuples doivent finir par reconnaître les mêmes principes, par employer les mêmes connaissances, par se réunir pour les progrès de la raison et du bonheur commun. Monsieur Turgot voyait que les principes fondamentaux de la législation et ceux de l'administration avaient déjà frappé les regards de quelques hommes, en trop petit nombre, à la vérité. Il voyait que l'objet et les droits de la société, les devoirs des chefs qui la gouvernent, les droits des citoyens qui la composent, avaient été fixés. Mais il était loin de penser qu'une législation dirigée d'après ces principes, où cet objet serait rempli, où ses droits seraient conservés, fut dès lors parvenue au dernier terme de la perfection. Le temps seul et les progrès des Lumières pouvaient conduire, non pas à atteindre ce point, mais à s'en approcher sans cesse. Il espérait qu'un jour viendrait où les hommes, désabusés du projet fantastique d'opposer les nations aux nations, des pouvoirs à d'autres pouvoirs, des passions à des passions, des vices à des vices, s'occuperaient à écouter ce que la raison leur dicterait pour le bonheur de l'humanité. Pourquoi la politique, fondée comme toutes les autres sciences sur l'observation et le raisonnement, ne se perfectionnerait-elle pas à mesure que l'on porterait dans les observations plus de finesse ou d'exactitude, dans les raisonnements plus de précision, de profondeur ou de justesse? Oserons-nous fixer jusqu'où pourraient atteindre en ce genre des esprits fortifiés par une meilleure éducation, exercés de bonne heure à des combinaisons d'idées plus variées et plus étendues, accoutumés à manier des méthodes à la fois plus générales et plus faciles? Gardons-nous de désespérer du sort de l'espèce humaine. Osons envisager, dans l'immensité des siècles que nous suivrons, un bonheur et des lumières dont nous ne pouvons même nous former qu'une idée vague et indéterminée. Comptons sur cette perfectibilité dont la nature nous a doués, sur le pouvoir du génie dont une longue expérience nous met en droit d'attendre des prodiges, et consolons-nous de ne pas être témoins de ces temps plus heureux par le plaisir de les prévoir, d'en jouir d'avance, et peut-être par la satisfaction plus douce encore d'en avoir accéléré de quelques instants l'époque trop éloignée. Ainsi, loin de croire les lumières funestes au genre humain, M. Turgot regardait la faculté de les acquérir comme le seul remède à ses maux et comme la véritable justification de l'ordre, imparfait à nos yeux, mais tendant toujours à se perfectionner, qu'il observait dans les choses humaines, dans l'univers considéré par rapport à nous. L'histoire le confirmait dans son opinion. Sans être ébranlé par les déclamations des adorateurs de tout ce qui est ancien, il jugeait son siècle et le croyait supérieur à ceux qui l'ont précédé, en raison, en lumière et même en vertu. « Nos gens corrompus d'aujourd'hui, disait-il souvent, auraient été des capucins il y a 100 ans. » Il regardait l'amour de la gloire comme un ressort utile, mais il voyait plus d'un inconvénient dans ses effets. D'abord, si on accepte celle qu'un homme doit à ses ouvrages dans les lettres, à ses progrès dans la philosophie, à ses découvertes dans les sciences et dans les arts, elle lui paraissait presque toujours distribuée au hasard. L'opinion du vulgaire la répand avec injustice, la prodigue à ceux qui savent le séduire, la refuse aux véritables talents et aux vertus réelles. En lisant l'histoire, M. Turgot voyait les historiens, dont la postérité est presque toujours l'écho servile, célébré tantôt des tyrans, tantôt des ministres oppresseurs. Quelquefois, les monuments nous permettent de démêler la vérité et de rendre une justice tardive. Mais souvent ils nous manquent, ou même l'erreur se perpétue en dépit d'eux, et l'amour d'une fausse gloire fait commettre des injustices aux conquérants, où apprend à un ministre habile l'art d'acquérir à peu de frais une réputation usurpée. Monsieur Turgot voyait aussi dans l'amour de la gloire un obstacle au progrès de quelque partie des connaissances humaines. Il croyait que l'amour de l'étude et le plaisir de s'occuper avaient eu autant de part aux grandes découvertes que le désir de s'illustrer. Et il voyait en même temps qu'aussi longtemps que la plupart des hommes travailleraient dans la vue d'obtenir quelque renommée, les recherches qui demandent de longues observations et où des vérités importantes ne peuvent être que le prix de travaux continués pendant plusieurs générations seraient nécessairement négligées. Mais dans une législation plus conforme aux vœux de la nature, aux lois de la raison, les hommes employés aux affaires publiques étant en moindre nombre, les grandes fortunes devenant plus difficiles et le luxe disparaissant par une distribution plus égale des richesses, les occupations de l'esprit, les recherches utiles deviendront une occupation plus générale. On n'aura plus besoin d'être excité pour s'y livrer, ni par l'espérance de la gloire, ni par les récompenses littéraires. C'était par ce même principe de la perfectibilité de l'espèce humaine que M. Turgot ne regardait ni aucun objet d'étude comme assez minutieux pour être négligé, ni aucune spéculation comme inutile. Tout ce qui pouvait conduire un jour à la découverte d'une vérité ou contribuer à former un chaînon dans le système entier des connaissances humaines, tout ce qui pouvait un jour être susceptible de quelque application, lui paraissait mériter d'occuper les hommes. Il regardait même l'occupation, l'habitude de cultiver son esprit par le travail et par l'étude, comme un bien réel et comme un préservatif contre les vices du désœuvrement. Celui qui n'a besoin de place, ni de fortune, ni de considération, pour trouver, d'une manière douce, à la fin de chaque jour, est bien prêt d'être vertueux. Et M. Turgot était convaincu que la nature a mis dans le cœur de tous les hommes les sentiments qui peuvent leur faire aimer la vertu, et qu'il faut surtout travailler à empêcher qu'il n'ait un intérêt trop grand d'être vicieux. Après avoir exposé les opinions et les principes de Turgot, c'est avoir peint son caractère. S'il est rare que, dans les hommes, le caractère et la conduite soient conformes à leurs principes, c'est que presque jamais, ils n'ont réellement les principes qu'ils affectent par l'hypocrisie ou par vanité. C'est que leurs principes sont presque toujours préjugés qu'ils ont reçus et non des vérités dont ils sentent les preuves. C'est que leur raison n'est point à eux. Comme M. Turgot, au contraire, n'avait adopté aucun principe sans l'avoir analysé, sans être parvenu à en avoir une conviction intime. Tous ses sentiments étaient une suite de ses opinions. Toutes ses actions étaient dictées par sa raison. Dès lors, on voit pourquoi, sévère pour sa morale, il était indulgent sur la conduite des autres, qu'il croyait souvent moins coupables que les institutions sociales. Pourquoi, de toutes les actions des hommes, celles qui tenaient à l'abus de la force et au mépris pour la vérité excitaient le plus son indignation, parce qu'il croyait que la connaissance de la vérité était le fondement de leur bonheur et un sentiment de bienveillance pour les autres, la source des vertus. Pourquoi, enfin, convaincu que les lumières répandues dans de bons ouvrages étaient un des plus grands services qu'on pût rendre à la société, il ne pouvait pardonner, ni à ceux qui, par des atteintes à la liberté d'écrire, nuisaient au progrès des Lumières, ni à ceux qui osaient soutenir dans leurs ouvrages des opinions qu'ils ne pouvaient croire. Les charlatans, quel que fût leur habit ou leur masque, lui inspiraient une aversion mêlée de dégoût, parce que tromper les hommes ou leur faire du mal était une même chose à ses yeux. Cette conviction forte de l'esprit, si elle s'unit au courage, produit la force de caractère, et on sent combien elle doit être rare. M. Turgot la possédait et ne pouvait s'empêcher de mépriser les hommes qui en étaient privés. Aussi, très indulgent pour ceux qui se livraient ou qui cédaient à leur penchant pour la volupté, devenait-il inexorable lorsqu'ils mêlaient à leur plaisir des pratiques religieuses parce que ce mélange prouvait ou une pusillanimité honteuse ou une coupable hypocrisie. Sa haine contre les méchants était franche et irréconciliable. Il prétendait même que les honnêtes gens étaient les seuls qui ne se réconciliassent jamais et que les fripons savaient nuire ou se venger, mais ne savaient point haïr. La satire, si elle était vraie, si elle avait pour objet le vice et surtout des crimes publics, ne lui paraissait qu'une action de justice. Il croyait qu'on pouvait cacher son nom parce qu'il ne fallait pas que, pour montrer son courage, un homme honnête s'exposât à une oppression injuste. Et l'homme le plus vertueux, qui peut-être ait jamais existé, a fait des vers satiriques. Il ne pouvait dissimuler sa haine pour les méchants, son mépris pour la lâcheté ou les bassesses. Ses sentiments se peignaient involontairement sur son visage, dans ses regards, dans sa contenance. Ce défaut d'empire sur son extérieur, qui tenait à la candeur de son âme, contribuait autant que l'éducation contrainte qu'il avait reçue, à l'espèce de timidité et d'embarras qu'il avait dans le monde. Il était parvenu à laisser avancer devant lui un mauvais raisonnement, et même, quoique rarement, de mauvais principes sans les combattre, et à ne plus disputer en faveur de la vérité. Mais il n'avait pu commander le silence à sa physionomie. Comme cette haine pour les méchants n'était que la suite de son amour pour l'humanité, elle ne lui a inspiré ni injustice ni vengeance. Elle n'influait pas même sur ses jugements. Il louait son ennemi le plus acharné d'une chose louable, le défendait d'une imputation injuste, lui accordait le mérite ou les qualités qu'il avait réellement. Mais il ne se croyait pas obligé de trahir la vérité pour faire louer sa grandeur d'âme, ni d'épargner le vice ou le crime parce qu'il en avait été la victime. Son désintéressement était celui que donne un esprit de justice rigoureuse, une appréciation exacte des avantages de la richesse et la véritable élévation de l'âme. Aussi, le désintéressement qui tient à la vanité dont on veut se faire un mérite n'excitait que sa compassion ou son mépris. Portant la vertu de l'humanité au plus haut degré, il exerçait avec toute la délicatesse et, si j'ose le dire, avec tout le raffinement dont elle est susceptible. Il devait être bienfaisant, mais il l'était sans ostentation, et il croyait que cette vertu n'est qu'une faiblesse, à moins qu'en la soumettant à la raison, on ne la fasse servir à l'utilité commune. Tous ses sentiments étaient purs, tous ses premiers mouvements étaient doux ou courageux, et son âme calme, pleine de candeur et de justice, offrait à ceux qui pouvaient la contempler un spectacle à la fois délicieux et sublime. Cet accord constant entre sa conduite et ses principes, ses sentiments et sa raison, cette réunion d'une justice inébranlable à la plus douce humanité, des vertus plus fortes aux qualités les plus aimables, de la sensibilité à la fermeté du caractère, de la justesse d'esprit à la subtilité, de la méthode dans les raisonnements à la hardiesse dans les idées, d'une analyse fine à des vues vastes, de la profondeur à l'exactitude dans les détails. ce mérite si rare, d'avoir tout embrassé dans ses connaissances, et le mérite plus rare encore, d'avoir porté dans ce vaste ensemble tant de netteté et de justesse, cette constance inébranlable dans ses opinions, sans les exagérer jamais, toutes ces qualités formaient un ensemble unique peut-être dans l'histoire des hommes, et qui ne pouvait se montrer que chez une nation paisible et cultivée, que dans un siècle éclairé. Quelques hommes ont exercé de grandes vertus avec plus d'éclat, ont eu des qualités plus brillantes, ont montré, dans quelques genres, un plus grand génie. Mais peut-être jamais aucun homme n'a-t-il offert à l'admiration un tout plus parfait et plus imposant. Il semblait que sa sagesse et sa force d'âme, en secondant les dons heureux de la nature, ne lui avaient laissé d'ignorance, de faiblesse et de défauts que s'il est impossible à un être borné de n'en pas conserver. C'est dans cette réunion si extraordinaire que l'on doit chercher la cause et du peu de justice qu'on lui a rendue et de la haine qu'il a excitée. L'envie semble s'attacher encore plus à ce qui approche de la perfection qu'à ce qui, en étonnant par la grandeur, lui offre, par un mélange de défauts et de vices, une consolation dont elle a besoin. On peut se flatter d'éblouir les yeux, d'obtenir le titre d'homme de génie en combattant ou en flattant avec adresse les préjugés populaires. On peut espérer de couvrir ses actions du masque d'une vertu exagérée. Mais la pratique constante de la vertu simple et sans faste, mais une raison toujours étendue, toujours inébranlable dans la route de la vérité, voilà ce que l'hypocrisie, ce que la charlatanerie désespéreront toujours d'imiter, ce qu'elles doivent tâcher d'étouffer et de détruire. Pour bien juger M. Turgot, il fallait le connaître tout entier. On pouvait le trouver froid, et sa raison seule l'avait préservé d'être un homme très passionné. On le jugeait dédaigneux, et jamais homme ne sentit une estime plus profonde pour les talents et les vertus. On ne mit pas de prix aux efforts de la médiocrité modeste et utilement employée. Il paraissait minutieux, et c'était parce qu'il avait tout embrassé dans de vastes combinaisons que tout était devenu important à ses yeux, par des liaisons que lui seul, souvent, avait su apercevoir. On le croyait susceptible de prévention, parce qu'il ne jugeait que d'après lui-même, et que l'opinion commune n'avait sur lui aucun empire. On lui croyait de l'orgueil, parce qu'il ne cachait ni le sentiment de sa force, ni la conviction ferme de ses opinions, et que sentant combien elles étaient liées entre elles, il ne voulait ni les abandonner dans la conversation, ni en défendre séparément quelques parties isolées. Ses opinions elles-mêmes n'étaient pas connues. Il n'existait en Europe qu'un très petit nombre d'hommes en état d'en saisir l'ensemble et de les juger. Et comme il ne s'agissait pas de découvertes isolées sur une seule science, d'ouvrages soumis au public, comment l'opinion, entraînée par le préjugé, aurait-elle pu le juger avec justice? Ainsi, l'homme, qui n'a fait que du bien, put avoir encore beaucoup d'ennemis, et la réputation d'un citoyen vertueux, intrépide, ayant de l'esprit et des connaissances étendues, était auprès du vulgaire tout ce qu'on accordait à un des hommes les plus extraordinaires que la nature ait produit, à celui qui peut-être a été le moins éloigné de la perfection à laquelle la nature humaine peut s'élever.